Salut à tous et bienvenue pour notre nouveau podcast Superphysique de la semaine. Donc, je suis aujourd'hui avec Rima du forum Superphysique qui a participé au dernier podcast, celui de la semaine dernière. Et donc merci à lui de participer. Donc je vous rappelle à tous que vous pouvez participer et vous n'êtes pas nombreux à me proposer votre participation au podcast. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez participer aussi bien sur le forum que sur Facebook, que par email. Donc vous êtes les bienvenus à participer et en plus vous avez le droit de poser votre question. Donc c'est parti.
Donc, salut tout le monde, salut Rudy. Alors première question dans la rubrique entraînement, comment limiter la prise de gras sur le ventre?
Donc, c'est marrant parce que c'est une question qui revient vraiment souvent. C'est comme quand on est au régime et qu'on se dit comment je fais pour perdre du gras plus vite sur le ventre. Mais en fait c'est une fois que t'es déjà un peu foutu que tu te dis bon bah comment je fais. Donc la solution, limiter la prise de gras sur le ventre, je dirais il y a pas 36 000 façons de toute façon. On voit bien que plus on travaille une zone, plus elle est sèche, et moins elle a tendance à faire du gras. Mais le problème, c'est que ça se fait sur du long terme. Par exemple, on a vu, je prends l'exemple des pros, à une époque, quand je regardais pas mal les DVD, on voyait qu'ils avaient tous beaucoup de steppers, en contractant les fessiers à chaque crêpe. Mais ça, pendant des mois, voire des années, et à la fin seulement, ils arrivaient à être secs des fesses. Donc pour les abdos, comment limiter le gras? Donc je dirais, faites des abdos pendant des années. Très souvent, aussi bien en série longue qu'en série courte, pour qu'il soit gros, donc pour qu'il se voit même avec un peu de gras. Donc en fait, c'est vraiment sur du long terme.
Mais donc la perte de gras localisée, c'est pas forcément un mythe alors, sur le long terme?
Non, sur le long terme, pour moi, c'est vrai. Parce qu'on voit bien, par exemple, tu prends même l'exemple des cyclistes, par exemple, tu prends un mec qui fait du vélo tout le temps, tu vois bien qu'il a des cuisses plus sèches que le haut du corps, par exemple. Ou tu vois bien que le mec qui fait du foot, bon, bah, il a des cuisses vachement découpées comparé au haut. Donc ce que tu travailles, c'est comme si on prend un autre exemple, qu'est-ce qu'on peut dire comme exemple?
Mais moi ça je l'ai remarqué, notamment sur le ventre, enfin me concernant, parce que lorsque je fais des séries très courtes en abdominaux, des séries entre 8 et 12, et ben au niveau de la définition, je perds, mais ça sur une courte période, une semaine, deux semaines, moi personnellement je le vois. Tandis que si je recommence les séries assez longues, entre 20 et 30, ben la définition revient, mais à calories égales par contre. Hein.
Calories égales, ouais, ben tu fais peut-être un peu moins de rétention d'eau, comme... les séries longues sont un peu moins traumatisantes. Là, on a vu, tu forces moins sur tes séries longues. Non?
En tout cas, l'intensité, en termes de charge est moins élevée sur les séries longues.
En général, les séries courtes. En général, plus on force sur un exercice, plus on produit de dégâts, et après, il y a comme une petite inflammation qui fait un peu de rétention d'eau. Ce qui fait, par exemple, qu'on est gonflé, quand on a des courbatures. Et donc, si on fait du léger, sans forcer, bon, bah, il n'y a pas de dégâts, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de rétention d'eau et donc il y a une meilleure définition.
Voilà. Mais c'est ce que tu conseillais dans un article, c'est quand même de travailler les abdominaux même quand on est en prise de masse, pour éviter justement le stockage de gras sur cette zone.
Ah ouais, mieux vaut tout travailler parce que de toute façon, du gras en prise de masse, on va en prendre. Et donc si on peut éviter, déjà qu'à la base on est tous plus ou moins défavorisés, on stocke tous plus à un endroit qu'un autre. Donc il y en a par exemple, ça va être plus sur le ventre. D'autres, ça va être plus sur les fesses, d'autres plus dans les cuisses, d'autres plus dans les bras, etc. Donc, si tu peux limiter, donc là, par exemple, avec l'exemple des abdos, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui les font pas, et qui prennent encore plus sur le ventre, alors qu'à la base, en plus, ça se trouve, ils sont défavorisés, et qu'ils doivent prendre encore plus. Et là, ils vont prendre encore plus sur le ventre, parce qu'ils font pas ce qu'il faut.
Donc, en les faisant, ils limiteraient peut-être un peu la carte.
Voilà, ils limiteraient un peu, mais après, c'est, pour la limiter vraiment, c'est vraiment sur le long terme, quoi. C'est pas sur un court terme, que ça marche, quoi, mais, donc pour moi, c'est, le long terme, jamais lâcher le travail des abdos. Donc, c'est comme les mollets. Si tu veux les mollets, faut les faire.
Faut les faire, voilà.
Voilà, donc si tu veux avoir le ventre un peu plus sec, les abdos et tout, et pas prendre trop de gras dessus,
y a pas 36 000 solutions. On a rien sans rien.
Pas 36 000 solutions, mais c'est vrai que ce sera sur le long terme et que c'est pas au dernier moment qu'il faut se réveiller, quoi.
Donc on va passer à la seconde question. Faut-il faire des dips en cas de douleur au sternum?
Mais j'aime bien cette question parce qu'après, elle va me permettre de rebondir sur une autre. Alors, si un exercice provoque une quelconque douleur anormale, évidemment, il ne faut pas le faire. On va pas essayer de sniquer, quoi. Donc, surtout qu'au dips, c'était assez courant. Il y avait Delavie qui avait fait une vidéo il y a un petit moment sur les douleurs de sternum au dips, qui concernait surtout les adolescents. Il n'y avait pas les cartilages bien soudés, si je me souviens bien. Donc, que ce soit les dips ou n'importe quel exercice, par exemple, autre exercice courant, je fais du barre au front, ça me fait super mal au coude. Bon bah je vais pas continuer à faire du barre au front. Le but c'est quand même de pouvoir progresser sans douleur, parce que si j'ai des douleurs, elles vont s'accentuer forcément.
Et ça va bloquer la progression.
Ce qui va conduire à un arrêt de l'entraînement, et donc si je m'entraîne pas, bon bah il n'y a pas de progression.
Voilà.
Donc non, si j'ai mal au sternum, je ne fais pas de dips. J'attends de voir, j'attends de plus en faire, voir si ça passe les douleurs, et après j'essaye de reprendre doucement, progressivement. Voir c'est comme une blessure en fait. Vous pouvez pas reprendre à fond après. Donc non, ne faites pas de dips si vous avez de douleur au sternum.
Surtout qu'on peut remplacer les dips par du décliné.
Ouais, du dé. Bah, par exemple, si on fait pour les pecs, on peut faire du décliné à la place. Si on fait pour les triceps, on peut faire du coucher serré. Ou...
Voilà.
Il y a aucun exercice qui est remplaçable. Il y a toujours une solution plus ou moins adaptée à votre cas. Vous n'êtes pas dans un cas désespéré. Il y a toujours une solution. Donc voilà.
Alors, dernière question de la rubrique entraînement. Finit-on forcément cassé après des années d'entraînement?
Ah ouais, j'aime bien cette question parce qu'elle me permet de rebondir avec celle d'avant. Bah, faut bien le dire que, à force de s'entraîner, au fil des années, on a forcément des petites douleurs. À moins qu'à chacun a ses limites, malheureusement, qui font qu'on n'est pas invulnérable, on n'est pas incassable, malheureusement. On n'est pas des super-héros, même si on a envie de l'être. Mais non, on n'est pas incassable, et donc petit à petit, forcément, il y a des petites douleurs quoi, qui arrivent parce que forcément, on essaie de mettre plus lourd, on essaie de progresser, alors qu'à la base, peut-être on n'est pas fait pour. Ça, par exemple, si je prends mon exemple, bon, bah, j'ai démarré le coucher, j'étais barre à vide, j'ai démarré le squat, je mettais avec 20 kilos. Bon, bah, tu regardes maintenant ce que je fais, bon, bah, j'ai multiplié par 8 ma force. Donc tu te dis, bon, il y a un moment, forcément, je vais avoir un peu mal partout. Quoi. Je sais plus qui disait ça, mais c'est qu'il y a un truc qui ressemble un peu, c'était on peut augmenter sa force de 300%, mais sa récupération que de 50%. Donc c'est un peu dans le style en fait. C'est que plus on progresse en fait, moins on peut en faire, parce que de toute façon on arrive proche de ses limites et qu'on va récupérer encore moins bien.
Voilà.
Donc ça vaut pour les tendons, pour les articulations, pour les muscles aussi. Donc
pour le système nerveux aussi. Hein.
Voilà, donc plus on progresse, plus on cherche à progresser malheureusement et plus on a de petites douleurs. Alors après. Parce que la question exacte c'était est-ce qu'on est obligé de finir gravataire après 30 ans? Non, on n'est pas gravataire. Je peux faire, par exemple, j'ai pas 30 ans, mais je peux faire n'importe quel sport sans souci. Il y a pas de, je m'échauffe bien et puis voilà. C'est juste qu'il faut être conscient que la musculation comme on le fait, en cherchant à progresser, c'est comme un sport de haut niveau. C'est pas comme Monsieur Tout le Monde qui va faire un petit footing tous les dimanches qui risque rien. Nous on s'entraîne 4-5 fois par semaine. Donc avec des charges de plus en plus lourdes, en essayant de forcer la nature pour progresser. Donc forcément, sportifs de niveau, on voit la télé, on les voit, ils sont blessés. Souvent. Bah,
plus on progresse, plus on va aller à ses limites. Et forcément, plus ça a de chances de, voilà, d'avoir des désagréments, c'est sûr. Hein. Mais on aura plus de désagréments en s'entraînant en musculation qu'en restant à tricoter dans son fauteuil, c'est sûr. Hein.
Voilà, après on sait pourquoi on a mal. Et de toute façon, c'est pas des grosses... Il n'arrive jamais qu'on doive arrêter de s'entraîner définitivement. On avait vu de la vie justement qui était arraché le biceps, on a eu l'opération et puis 6 mois après il était de retour.
Ouais.
Donc c'est pas. Après les blessures malheureusement font partie du sport de haut niveau entre guillemets comme on le pratique. Parce que de toute façon, donc quand je vois la question d'avant, par exemple faut-il faire des lifts en cas de douleur au sternum? Donc la première règle pour pas se blesser, c'est de pas faire d'exercices qui vous font du mal. Si vous font pas du bien, déjà on les vire. Peu importe l'exercice, malheureusement, des fois, ça arrive que ce soit le développé couché. Bon, bah, pas de bol, hein, plus de développé couché, je sais, c'est triste. Mais c'est ça ou arrêter de s'entraîner. Donc, mieux vaut choisir de changer d'exercice et de continuer à progresser. Mais donc, ça fait combien de temps que tu t'entraînes, Paul?
Alors, moi, ça fait à peu près 3 ans. Mais,
t'en es au début.
Oui, oui.
T'es encore tout neuf.
Tout neuf. Je suis déjà cassé de partout, alors.
Donc, Paul fait, si vous voulez voir qui c'est Rima, donc sur le forum, et donc ils sont cahier d'entraînement de la rubrique force, donc il explique quelques douleurs.
Voilà. Mais bon, moi je sais pourquoi j'ai mal.
Voilà, donc après on cherche à minimiser forcément les douleurs. Le but c'est pas d'avoir mal, mais de ne pas avoir mal, et forcément il y a des petites douleurs qui arrivent. Si par exemple demain, je me limite à faire du low pour 100 kilos, bon bah j'ai plus mal nulle part, hein, forcément. Je fais du squat à 100 kilos, bon bah j'ai mal nulle part. Hein. Mais si demain je veux faire un couché à 180, bon bah... Il va falloir que j'y aille pour les faire, et puis forcément j'ai mal un peu aux épaules, ou un peu au coude, ou au poignet, ou...
Puis après, il y a la blessure qui est inhérente à la pratique de la musculation, puis aussi la blessure due à l'ego, malheureusement. Souvent.
Ouais, quand on veut mettre trop long. Justement, je rebondis sur une question qu'on m'avait posée. Donc, c'était un monsieur qui m'écrivait pour sa fille et qui me disait, est-ce que le kiné de ma fille nous a conseillé de lui faire faire de la musculation? Et j'ai toujours entendu dire que la musculation était néfaste pour les articulations. Et donc, bah, là, c'est exactement la question, c'est en prévention, sans chercher à progresser, juste pour se renforcer, non, ce n'est pas néfaste, c'est bénéfique. Mais en cherchant à progresser comme on le fait, ce n'est plus vraiment pour la santé.
Oui.
C'est plus pour la performance, pour la progression, et donc... Donc voilà, vous pourrez dire que vous êtes des sportifs de haut niveau. C'est là, pas mal.
Bon, donc on va passer sur la rubrique diététique. Donc la première question, c'est comment gérer sa diète sur une année?
Donc on va partir du principe qu'on est un culturiste qui cherche à faire du muscle. Donc moi, comme vous le savez, je suis assez partisan de progresser doucement et donc de ne pas faire du gras à outrance.
J'ai un peu la même vision. Hein.
Donc faire du gras à outrance, ça, on y reviendra plus tard, mais ça implique malheureusement des restrictions et des sacrifices à vie sur l'alimentation. Donc je pense qu'on va éviter. Donc comment gérer sa diète? Donc imaginons, on va prendre un exemple, vous débutez, vous n'êtes pas très gras, très simplement, donc pendant plusieurs années. Donc là c'est très simple, pendant plusieurs années vous allez chercher à prendre du muscle petit à petit. Donc en général je conseille un rythme de 500 grammes à 1 kg par mois, ce qui me paraît être un bon rythme pour pas faire trop de gras. Forcément au bout d'un moment il y en aura parce qu'on va pas prendre 1 kg de muscle par mois pendant des années.
C'est trop beau.
Après 36 kg en 3 ans c'est pas possible. Mais disons que c'est un bon rythme. Et dès que vous vous trouvez un peu trop gras, en suivant ce rythme, donc quel que soit votre niveau vous pouvez suivre ce rythme, 500 grammes à 1 kg par mois, rien ne vous empêche de faire un petit régime en fait. Donc comme on en avait parlé dans un précédent podcast, un petit régime qui servira à enlever un peu le gras que vous avez pris superflu. Et après, à vous de décider si vous avez la masse suffisante pour sécher à fond, si vous voulez être super sec, ou si c'est juste un petit régime histoire de perdre 3-4 kilos et de relancer votre prise de masse à 500 grammes, 1 kilo par mois.
Donc, il n'y a pas forcément de, comment ça s'appelle, de durée maximum pour une prise de muscle raisonnée.
Non, il n'y a pas de durée maximale, non.
Non, mais c'est la vision de personnel de chacun.
Ouais, c'est la vision. Quand vous vous trouvez trop gras, c'est là qu'il faut sécher. Enfin, faut sécher, faut faire un régime. Sinon, il n'y a pas vraiment de durée, parce que de toute façon, le but est quand même de progresser, de prendre du muscle. Donc, quand on est au régime, il faut bien le dire, on prend plus de muscle. Donc, moins on est au régime, mieux c'est. Donc, tant que vous progressez et que vous ne vous trouvez pas trop gras, bon, bah, vous pouvez continuer. Quand vous trouvez trop gras, un petit régime. Qui va pas durer longtemps, si c'est pour 3-4 kilos par exemple, ça va prendre les 2 mois maximum, un mois et demi, 2 mois. Si vous voulez sécher à fond, bah, ça va vous prendre 4 mois, 5 mois, et après bah, c'est reparti. C'est reparti, et ainsi de suite, jusqu'à temps que vous soyez arrivé à vos objectifs. Si vous, si vos objectifs n'évoluent pas en cours de temps.
Moi, je pense à la même chose que toi, je pense qu'il faut être raisonné, que ce soit dans la prise de poids, la perte de poids, il faut y aller doucement, mesurément.
Ouais, parce qu'on en a connu des mecs qui faisaient des prises de masse énormes, et sauf ce qu'ils disaient pas, c'est que les mecs, quand ils séchaient après, ils mettaient 6 mois à sécher, et puis c'était des mecs qui étaient au chômage, qui travaillaient pas, et qui dormaient toute la journée, et qui étaient comme des pros en fait, donc c'était facile quoi, c'était facile. C'était pas hyper, c'est pas comme le mec qui travaille, qui doit aller bosser, qui doit se lever, qui doit faire ci, qui doit faire ça, bon bah le mec là, tu fais une prise de masse de 20 kilos en 6 mois, enfin, pour sécher là t'en as pour 2 ans quoi. Parce que tu vas pas tenir.
Et à la fin, ça peut être la catastrophe.
Ah ouais, en plus, vite fait, une fois que t'as fait tes cellules graisseuses, donc que t'as pris du gras, t'as créé des nouvelles cellules graisseuses, donc on peut dire un peu qu'elles sont immortelles, quoi. Donc dès qu'après tu vas faire un écart ou manger en surplus calorique,
les
cellules vont chercher à se remplir, et si elles se remplissent, bon bah, forcément tu fais plus du gras que du muscle, quoi.
Elles meurent pas, en fait, elles s'atrophient.
Voilà, donc elles diminuent de taille, mais elles sont toujours, elles appellent toujours à se remplir. Donc au moindre écart, bon bah paf, ça va dedans. Donc tu grossis. Par exemple, Karim de la team qui était beaucoup plus gras avant, bah dès qu'il fait un écart, bah il le voit quoi.
Oui.
donc ça implique, quand on fait des prises de masse énormes, après de se réguler beaucoup plus. T'es moins libre de manger, par exemple demain tu veux aller manger une pizza, bon bah tu sais que tu vas mettre 10 jours pour l'éliminer quoi. 10 jours à se restreindre un peu, alors que si t'avais jamais été aussi gras, bon bah en 4-5 jours c'était réglé quoi. 4 jours c'était réglé. Donc c'est pour ça qu'il faut faire gaffe, c'est pour ça que je conseille d'y aller vraiment doucement, 500 grammes, 1 kg par mois, c'est un bon rythme. Si ça va un peu plus vite, soit vous êtes débutant à taille moins 15 et c'est pas grave, et si ça va un peu plus vite et que vous êtes déjà après à taille poids ou taille moins 5, bon bah essayez de ralentir un peu, de diminuer votre diète, et histoire de garder un bon rythme de croisière.
Alors, deuxième question diététique, que penser des protéines qui mélangent whey et caséine?
Bah ouais, moi j'aime pas trop, en fait j'aime pas trop du tout, j'aime pas du tout ces mélanges. Parce que c'est un peu, je trouve que c'est un peu bâtard en fait. Donc c'était Pedro Dark, donc j'ai plus son prénom, mais qui posait la question sur le forum. Donc moi j'ai choisi de, je sais pas si j'en ai mis dans la boutique, mais ça m'étonnerait parce que je suis pas fan du tout de ces trucs-là. En fait, donc schématiquement, la whey c'est fait pour être une protéine rapide, s'assimiler facilement, être rapidement dans le sang, enfin après l'entraînement, autour de l'entraînement et compagnie. Et la caséine, c'est fait pour prendre avant de dormir.
Avant de dormir, voilà.
Si on a une période de jeûne qui va durer très longtemps, ou alors exceptionnellement, si je peux pas manger pendant 6-7 heures de suite, je prends une caséine. Et donc en prenant les deux, bon bah il y a pas de. En fait, c'est bâtard comme truc, quoi. C'est pas.
Le seul intérêt, ça serait si le repas après entraînement est vraiment vraiment loin.
Ouais, ouais, à la rigueur, ça peut, mais tiens, moi par exemple, je suis plus favorable. Au fait de ralentir sa whey, par exemple, avec des amandes ou des noix, ou avec des autres aliments, en fait, qui ralentissent sa digestion, plutôt que de prendre un mélange whey et caséine, qui, je vois pas, en fait, spécialement l'intérêt du truc. Je vois pas le but, en fait, du mélange.
Bah, généralement, moi, je prends mon exemple. Par exemple, mon shaker post-training, je le prends à 11h, et mon gros repas, je vais le prendre environ une heure après, vers midi.
Ouais, mais donc c'est bon, là.
Oui, c'est bon, mais si jamais j'étais dans la capacité de le prendre vers midi et que je devais le prendre vers 13h, 14h, peut-être qu'il faudrait adopter cette stratégie de mélange whey et caséine. C'est peut-être dans cette optique-là.
Ouais, dans cette optique-là.
Parce que sinon, c'est vrai que c'est plus utile la whey seule en après-entraînement et la caséine avant de dormir.
Et surtout que la plupart du temps, les caséines, on les digère beaucoup moins bien que la whey, donc en plus, c'est pas avoir mal au bide. Et puis la caséine, à l'époque, c'était pas très cher parce que c'était une caséinate de calcium. Donc c'était pas très haute qualité, maintenant c'est la caséine micellaire ou ce qu'on appelle la protéine totale de lait, suivant les vendeurs. donc maintenant c'est cher quoi, c'est aussi cher que la whey quoi, donc moi je préfère avoir un seul pot chez moi plutôt qu'en avoir deux différents, puis de jongler entre les trucs quoi, donc voilà, je trouve ça presque purement marketing. donc voilà. Pour la question, je pense qu'il faut pas en acheter. Donc sinon, ouais, vous avez vu aujourd'hui, il n'y avait pas d'actualité parce que j'ai rien vu qui s'était passé. Donc n'hésitez pas à me prévenir. Des fois, s'il y a des actualités qui nous touchent ou quelles qu'elles soient, aussi bien sur le forum que sur Facebook, histoire qu'on en discute un petit peu. Et donc je vous rappelle encore une fois que vous êtes les bienvenus pour participer au podcast. Donc je suis joignable, vous savez comment faire. Et n'oubliez pas de poser vos questions donc sur le forum. Donc cette semaine on a eu beaucoup de questions. Donc c'est plutôt sympa, comme ça on en a pour quelques semaines encore. Donc voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne écoute comme d'habitude et puis on se retrouve tous sur Super Physique.
À plus.
Salut.